Donc, ça va me rappeler l'intro d'une conférence que j'ai faite il y a 6 ans. Donc, je suis Benjamin Bayard, président de la Fédération FDN, et je ne vais pas vous dire sur le slide d'intro ce que c'est que la Fédération FDN, vu que je vais parler que de ça. Oui, monsieur Caméra, il faut que je sois où? Là, il ne faut plus que je bouge. Je vais m'asseoir. Ok. Ok. Donc dans la mesure où je ne vais vous parler que de la fédération FDN pendant toute la présentation, je ne vais pas vous présenter la Fédé sur la diapo d'intro. Alors, rapidement, je vais essayer de reposer quelques éléments de définition sur ce que c'est qu'un FAI, donc ce que c'est... Enfin, vous verrez, c'est pas si simple que ça de définir les mots opérateur et fournisseur d'accès Internet. C'est moins évident que ça n'en a l'air comme ça. Ensuite, je vous raconterai un petit peu ce que c'est que la fédération FDN. Je vous citerai quelques exemples de FAI associatifs. Et en fait, tout ça devrait donner une conférence relativement courte, ce qui fait qu'on devrait être libéré pour dîner. Et que, en contrepartie, vous pourrez poser des questions sur plein de trucs, sur ce que j'ai raconté là, et éventuellement sur ce que vous avez pu lire ou voir dans d'autres conférences. Vous avez le droit de traiter d'autres sujets dans les questions. Voilà. Alors, il y a quelques problèmes quand on veut essayer de se dire on va faire un fournisseur d'accès Internet. Il se trouve que la première chose par laquelle il faut commencer quand on veut monter un FAI associatif, hormis créer l'association, qui est l'étape zéro, ce sont les services dits évolués. C'est-à-dire qu'en fait, n'essayez pas de devenir fournisseur d'accès Internet si vous n'êtes pas capable d'installer un serveur mail tout seul. Vous allez mourir. Les premières choses par lesquelles il faut commencer, ce sont les services hauts dans la pile des services. Donc typiquement, savoir héberger un serveur web, c'est le B.A.B.A. Savoir héberger un serveur mail, c'est dans les normes. Savoir différencier un serveur IRC d'un client IRC, c'est pas mal. Avoir une vague idée de comment fonctionne un serveur Jabber, ça peut servir. Ces éléments-là sont le bon moyen de commencer à rentrer dans Internet en étant autre chose qu'un utilisateur passif d'un service audiovisuel. Tant que vous regardez YouTube avec Gangnam Style et YouPorn avec une main, vous êtes dans l'usage passif d'Internet. Éventuellement essoufflant, mais passif. À partir du moment où vous vous demandez comment je fais pour héberger un serveur web à un endroit A pendant que j'héberge les vidéos à un endroit B et que l'ensemble a l'air de venir d'ailleurs et que ça puisse passer au travers d'un firewall et quel type de certificat SSL j'ai le droit de mettre, vous commencez à changer de catégorie. Mais la première étape, c'est ça, c'est commencer par les services de haut niveau. C'est en gros, vous louez un pseudo-serveur dédié chez n'importe qui pour 3 sous. Et si vous apprenez à monter 2-3 services dessus, c'est la première étape pour commencer à vous déniaiser un tout petit peu. Mais bien évidemment, tout ça ne relève pas du métier de fournisseur d'accès Internet. On est bien d'accord. Installer un serveur web ou installer un serveur de messagerie, c'est pas le métier de fournisseur d'accès Internet. Sauf que vos abonnés considéreront comme tout à fait normal que vous leur fournissiez une adresse mail et une page perso. Donc ça a beau ne pas faire partie de la définition du boulot, ça fait partie des trucs attendus. Ensuite, il y a les services de base, ceux dont les gens sont même pas conscients qu'il existe des serveurs. Alors je soupçonne qu'il y a un degré de geekitude assez élevé dans la pièce. J'en vois plusieurs barbus, ça doit jouer. Même ceux que je connais pas, parce qu'il y a des faux là, il y en a deux, je les connais déjà, c'est de la triche, mais il y en a d'autres. Les services dont les gens soupçonnent même pas que ça existe. Qui parmi vous sait comment fonctionne un DNS? Qui est capable de citer l'IP du DNS qu'il utilise? C'est très bien comme DNS 127.0.0.1. Chez moi, il marche formidablement bien. Ça, c'est la deuxième étape. Qui parmi vous sait ce que c'est qu'un glory cord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une moyenne 8, une moyenne très élevée. Mais ça veut quand même dire qu'il y a 90% des gens dans la pièce qui ne savent pas. Donc qui ne sont pas capables d'expliquer pourquoi le DNS fonctionne. quand vous essaierez d'expliquer pourquoi le DNS fonctionne, vous verrez qu'à un moment, vous avez un problème de poule et d'œuf. Et la façon de résoudre ce problème de poule et d'œuf, ça s'appelle un glue record. Glue comme glue, glue. Le truc qui sert à coller. Un enregistrement collant, comme on dit en français. Bien, donc en fait, ça c'est la deuxième étape. Qui parmi vous sait ce que c'est qu'un serveur Radius ? Oh, là aussi la moyenne est élevée. Bien. Ça aussi, ça fait partie des services de base, c'est-à-dire que ça fait partie des services qui sont cachés derrière le métier de fournisseur d'accès et qu'il convient de savoir faire. Mais ceci dit, quelqu'un qui installe un serveur Radius et qui s'est monté un DNS n'est pas un fournisseur d'accès Internet. L'autre notion, c'est la notion, là je fais exprès, je change complètement de domaine de vocabulaire, ce qu'on appelle un opérateur de service sur une infrastructure passive. Alors je vous recadre un petit peu le vocabulaire. On est soit dans les pouvoirs publics, soit chez les gros opérateurs dans le domaine de la régulation, etc., où on définit une infrastructure passive, typiquement le réseau cuivre, et les gens qui sont fournisseurs de services dessus. Donc, typiquement, un opérateur qui fait du dégroupage pour allumer de la DSL sur une ligne cuivre, vu du régulateur des télécoms, il s'appelle un opérateur de service. Par opposition à l'opérateur de réseau qui est celui qui a posé le réseau en cuivre. Ça, c'est un vrai problème. Il y a un mot dont il faut se méfier, c'est le mot opérateur, il veut rien dire. Si je prends la terminologie officielle, l'assistance publique doit être l'opérateur des hôpitaux de Paris ou un truc comme ça. C'est quelqu'un qui opère un service, un opérateur. C'est pas forcément télécom. Typiquement, la jurisprudence définit les gens qui fabriquent un réseau physique et les gens qui opèrent un service sur le réseau physique. Si j'essaye de vous ramener ça dans votre vocabulaire de tous les jours, Free ne fabrique pas de réseau physique. Free ne pose pas des prises de téléphone. Free est un opérateur de service. Au sens de l'ARCEP, ils sont à mi-chemin. Ils font un petit peu du physique parce qu'ils vont faire du dégroupage. Mais d'un autre côté, la vraie boucle locale n'est pas à eux. Le vrai dernier kilomètre de réseau ne leur appartient pas, ils ne l'ont pas fabriqué eux-mêmes. Donc savoir ce que ça veut dire opérateur, c'est très flou. En fait, fournir une adresse IP à quelqu'un, même ça, c'est pas très précis. Vous allez voir dans les exemples que je donne un tout petit peu plus loin, c'est pas très précis. Et puis il y a la définition juridique, qui est quand même pas mal. Il y a l'article L33.1 du Code des postes et communications électroniques qui définit ce que c'est qu'un opérateur de réseau. Vous allez voir, c'est très flou. Et la partie physique, on comprend, ce sont les gens qui posent un réseau physique, et vous allez voir que vous connaissez pas les noms des opérateurs français. Vous pouvez me citer comme ça des noms d'opérateurs qui posent des réseaux physiques en France ? Non ? Quelqu'un a déjà vu une pelleteuse étiquetée Colt ? CGLAC. Voilà, CGLAC, oui. Par exemple, il y a quelques opérateurs comme ça qui sont des. Alors, ils sont pas opérateurs, eux, ils posent vraiment. CGLEC, c'est vraiment le sous-traitant qui fait. Eux, ils font le trou dans le trottoir. Mais des opérateurs qui posent des infrastructures physiques, il y en a pas beaucoup. Enfin, en fait, si, il y en a plein et vous les connaissez pas. Et après, ces infrastructures sont vendues ou louées. L'article L33.1, lui, il définit la couche qui est au-dessus, c'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas à fournisseurs d'accès Internet, il s'intéresse à opérateurs de communication électronique. Et la définition n'est pas toujours extrêmement précise de savoir quelle activité en relève et quelle activité n'en relève pas. Et puis, il y a le grand 1 de l'article 6 de la loi de confiance en l'économie numérique, qui doit s'appeler 2004-quelque chose de son vrai nom poétique, qui lui définit effectivement ce qu'on reconnaîtrait comme fournisseur d'accès Internet, c'est-à-dire en fait comme fournissant une connexion au réseau de communication électronique. Voilà, ça c'était pour vous aider à situer un tout petit peu l'endroit où on se trouve. En fait, un fournisseur d'accès, ça doit fournir au moins jusqu'au service de base, et c'est susceptible de descendre jusqu'à poser le réseau physique. Et dans les membres de la fédération FDN, on en a qui opèrent la totalité jusqu'au service évolué. Bien. Qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur d'accès Internet ? Alors, moi, j'ai pris ma définition à moi, par habitude. C'est quelqu'un qui fournit une adresse IP publique et qui fournit un minimum syndical de services intégrés avec. L'usage est que le DNS soit fourni, la résolution DNS. L'usage chez les gens bien éduqués est de fournir aussi un service de nommage. C'est-à-dire qu'avec votre adresse IP, on vous donne un reverse et on vous donne un nom. Ça s'est perdu, ça. C'était la norme en 1992, puis ça l'est plus maintenant. Et nous, on respecte les normes, donc on fait comme ça. Les abonnés ont un nom. Moi, ma machine s'appelle Edgar, et donc edgar.fdn.fr, c'est mon nom de domaine, qui est résolu en l'adresse IP de ma machine, qui est la même qui est sur ma ligne ADSL. Et donc, quand vous faites ping edgar.fdn.fr, si ça répond, c'est que mon PC est allumé. Et que j'ai payé ma facture France Télécom, et que j'ai payé mon abonnement FDN, et que rien de tout ça n'est en panne, etc. Donc voilà, pour moi, un fournisseur d'accès à Internet, c'est quelqu'un qui fournit des adresses IP publiques et suffisamment de services intégrés pour que l'ensemble fonctionne en moyenne pour l'abonné lambda. Donc, si je m'en tiens au fait que je viens causer aux 15 ans du CRANS, le CRANS est fournisseur d'accès Internet depuis un peu plus de 14 ans et demi. Sans l'ombre d'un doute. En infraction avec la loi, bien évidemment, puisque vous n'êtes pas déclaré comme opérateur à l'ARCEP. Voilà. Ce qui veut dire que les exemptions de responsabilité qui sont prévues par l'article 6 de la loi de confiance en l'économie numérique, qui dit que ce que font vos abonnés, c'est pas de votre faute, ne s'applique pas puisque vous n'êtes pas opérateur. Voilà. Vous n'êtes pas fournisseur d'accès Internet, enfin, si, vous êtes dans l'illégalité. Vous êtes un fournisseur illégal, un fournisseur sauvage. Voilà. Voilà ce que nous, on appelle fournisseur d'accès Internet. Bien. La définition de la fédération FDN, ce sont deux grandes choses. D'abord, une charte. Alors, je suis désolé, mais comme je prépare absolument jamais rien, dans le PC, là, j'ai le fichier, le source LaTeX de la charte, mais je la connais pas par cœur. Elle est trop longue. Elle liste un certain nombre de points que les opérateurs doivent respecter pour pouvoir prétendre devenir membre de la fédération FDN. Et ceux qu'on aime bien, mais qui remplissent pas tout à fait tous les points, peuvent devenir correspondants, c'est-à-dire qu'on leur parle, mais ils ont pas le droit de vote en AG. Il y a plein de points là-dedans. Il y a en particulier des objectifs très forts sur la notion de neutralité du réseau. Il faut qu'on s'entende, je me méfie. Alors j'ai passé beaucoup de temps à militer pour la neutralité du réseau, et je me méfie de ce que racontent les gamins intégristes qui ont vu mes conférences et qui n'ont pas tout compris, et qui retiennent les positions dures et non pas l'intelligence. La neutralité du réseau, ça ne veut pas dire qu'on filtre rien. C'est pas ça. Sur le réseau de FDN, j'ai personnellement mis en place du filtrage à plusieurs moments. J'ai des souvenirs, l'été dernier, d'avoir mis des trous dans le routage exprès pour faire disparaître certaines machines pendant des attaques. C'est-à-dire quand on essaye de nous envoyer 20 gigabits de trafic, qui donc sature absolument tout, mais pas que chez nous, hein, chez nos voisins aussi, faire disparaître d'Internet pendant quelques heures la cible de l'attaque, ça permet de faire disparaître l'attaque. Donc ça, c'est très, voilà, c'est typiquement un réseau absolument non neutre au sens technique, puisqu'il filtre, mais c'est pas une atteinte au concept de neutralité du réseau, puisque ça correspond à quelque chose. Ça correspond à quelque chose de normal, de légitime, etc. Même chose, il y a des éléments de priorisation qui peuvent être tout à fait valables du moment qu'ils sont sous contrôle de l'abonné. C'est-à-dire, si moi j'ai envie que, s'il existe un niveau prioritaire sur le réseau, c'est moi abonné qui dit quels éléments doivent être traités de manière prioritaire. C'est pas à l'opérateur de le décider. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Pour nous, neutralité du réseau, ça veut dire que les contenus sont tous traités de la même façon et que s'il y a une différence de traitement, cette différence de traitement est entre les mains de l'abonné, est pilotée par l'abonné. Donc s'il y a du filtrage, il doit être piloté par l'abonné. S'il y a de la priorisation, elle doit être pilotée par l'abonné. Techniquement, c'est pas très dur à faire, hein. Une fois que vous êtes capable de prioriser un flux, dire que c'est l'abonné qui sélectionne le flux à prioriser, c'est pas grand-chose. Dans les contraintes pour être membre de la fédération, il y a le fait d'être non lucratif. Et alors je précise, non lucratif au sens de la doctrine fiscale, ce qui est quelque chose de très compliqué. Donc ça suppose entre autres que les dirigeants sont bénévoles, ça suppose que les bénéfices ne sortent jamais de l'association, ça suppose de ne pas avoir recours à la publicité, ça suppose... venir dire du bien en conférence, ça n'est pas de la publicité. Acheter des espaces publicitaires dans un journal, c'est de la publicité. Répondre à l'interview d'un journaliste, ce n'est pas de la publicité. Là-dessus, la doctrine fiscale, on a long... Il y a des pages expliquant que ça, c'est pas de la publicité et que ça, c'en est. Vendre des t-shirts avec les logos de l'association, on a le droit. Distribuer des autocollants avec des logos de l'association, ça, on a le droit. Du coup, je vous en ai amené un petit peu. Il doit m'en rester dans ma poche. Je dois pouvoir me débarrasser de quelques logos FDN qui traînent. Si j'ai pas vidé ma poche la dernière fois, perdu. Perdu. J'ai vidé la poche la dernière fois, donc il en reste 3-4. Donc le non lucratif au sens fiscal, je l'aime bien parce qu'il est, il a une définition qui est assez carrée et qui est assez communément admise. Il y a, ça doit être un bulletin officiel de l'administration fiscale de 2006 qui définit ça. Les fournisseurs d'accès Internet dans la fédération FDN sont tous gérés par des bénévoles. Ce que la charte impose, c'est que les dirigeants soient bénévoles. La pratique, c'est que tout le monde est bénévole dans les associations. Il n'y a pas de salariés dans les associations de la fédération. Et puis, dans les contraintes imposées par la charte, il y a le fait que tous les abonnés doivent être adhérents de plein droit et doivent avoir un droit de vote. Voilà. Il y a un élément quand même important que j'ai pas cité, c'est une association de bénévoles. Un fournisseur d'accès Internet associatif, ça a quelques conséquences pragmatiques simples. Un fournisseur d'accès commercial, c'est-à-dire une société anonyme, ne rend de compte qu'à ses actionnaires. Une association ne rend de compte qu'à ses adhérents. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil du tout. Chez Free ou chez Orange, c'est pas vous l'actionnaire. Cherchez pas. Même si vous avez acheté 2-3 actions pour mettre dans une SICAVE. Vous n'êtes pas un actionnaire à qui on rendra des comptes. Bien, donc dans les quelques exemples de FAI de la Fédé, FDN, qui est le plus ancien, alors j'aime bien resituer quelques éléments. FDN, ça date d'avril 1992, 21 ans, en fait il y a une partie des gamins dans la salle qui ne devaient pas être nés. Voilà, donc on est très très vieux, dit poétiquement, on est très 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 vieux. C'est-à-dire des fournisseurs d'accès Internet, on n'est pas le plus ancien, il y en avait avant nous, mais tous les autres sont morts. Alors je dis morts, ils sont morts ou ils ont mal tourné, hein. Il y en a qui ont été rachetés. Oléane, qui datait sensiblement de la même époque que nous, qui était d'une taille tout à fait comparable. C'est-à-dire qu'en 93-94, quand on regardait les fournisseurs d'accès Internet en France, il y avait Oléane qui était assez gros, il y avait FDN qui était assez gros, puis il y avait des petits à côté. Il faut repérer, FDN avait 200 abonnés à l'époque. Hein. On était dans les assez gros avec Oléane. Bon. Oléane, ça a mal tourné. C'était une boîte qui a bien marché, qui du coup est devenue grosse et qui du coup a été rachetée. Et maintenant, le cadavre d'Oléane s'appelle Orange Business Service. Bon. Un truc qui a mal tourné. On a commencé... Alors en fait, il faut comprendre qu'FDN a été créé pour des raisons pragmatiques très simples. Les journalistes qui découvrent FDN en 2013 se posent des questions savantes sur mais qu'est-ce qui vous a pris de monter un fournisseur d'accès Internet associatif alors qu'il en existe des tellement formidables, rouge, orange, vert, bleu. Et nous, on répond, ben non, 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 en 1992, il n'y en avait pas. En fait, c'est pas qu'on n'était pas content du service tout pourri, c'est qu'il n'y en avait pas. Non, mais même en bas débit, hein, il n'y en avait pas. De l'accès, à... en fait, pour être connecté à Internet en 1992 en France, il fallait être dans un des rares centres universitaires connectés, ou dans une des encore plus rares entreprises connectées. Il y avait quelques opérateurs de réseau qui avaient des choses, du genre UUNET. Quelqu'un a entendu parler du UUNET ? Ça n'existe plus. Hein. C'est... Oui, mais toi, tu triches. Non, c'est mon camarade Sontag, mais il était là à l'époque préhistorique, lui. Il était tout petit en couche, il courait dans les couloirs. Oui, c'est ça. En 92, fournisseur d'accès Internet pour du grand public, pour du particulier, mais même pour des PME, ça n'existait pas. Au mieux, le plus évolué qui ressemblait qu'on pouvait trouver, c'était des gens qui donnaient des accès à des BBS. Qui voit ce que c'est qu'un BBS ? Bon, je ferai pas trop de paléo-informatique, je vais m'arrêter là. Donc en fait, FDN a été créé simplement parce que des gens qui voulaient avoir accès à Internet pour échanger du mail avec les copains qu'ils avaient ailleurs sur le réseau, cherchaient à fabriquer un accès, et puisque personne voulait leur en vendre, se sont dit « je vais le faire ». Et c'est pour moi la meilleure des démarches qui puisse monter à créer une structure associative dans ce domaine. C'est puisque personne veut le faire, je vais le faire. Donc on a évidemment commencé par de la fourniture d'accès RTC. Alors RTC, pour les gens qui ne savent pas, c'est réseau téléphonique commuté. C'est le bas débit. On doit être un des derniers opérateurs de France à avoir encore un petit peu de ça et à s'en servir encore. En particulier, on s'en est servi il y a 2 ans maintenant, pendant la révolution en Égypte, quand le régime finissant a décidé de couper tout l'Internet du pays. Il n'a pas coupé le téléphone à l'international, et donc on a annoncé publiquement que les gens qui voulaient pouvaient se connecter sur un numéro de téléphone à Paris, login Toto, mot de passe Toto, et ils obtenaient une adresse IP publique qui leur permettait d'accéder à Internet, et donc il y en a qui s'en sont servis. Et le numéro est encore diffusé régulièrement dans les différentes crises du même type. Maintenant, il a tendance à être filtré. Forcément. Mais donc, on a encore un petit peu d'infrastructure RTC qui fonctionne. Le plus gros de notre activité est de fournir de la DSL. Ça, c'est pas très intéressant. C'est ce qu'on fait le plus, hein, mais c'est pas le plus intéressant. Ce qui est intéressant, quand je viens parler aux CRANS, aux victimes de Renater, nous fournissons des VPN. Donc pour les gens qui ont un réseau pas neutre, par exemple un réseau rouge où YouTube ne marche pas, je vous laisse deviner lequel, c'est bien, maintenant il y a tellement peu de FAI qu'on peut les désigner avec les couleurs de leur pub. Donc non, pas celui qui est carré, l'autre. FDN fournit des abonnements VPN sur lesquels on offre aux adhérents une adresse IP fixe. Donc pour les gens qui sont abonnés chez l'autre opérateur carré qui est pas rouge, vous trouverez, et qui ont donc du mal à avoir une IP fixe, ben on fournit ça. Et étonnamment, chez nous, YouTube ne rame pas. C'est-à-dire que vous prenez votre accès Free ou votre accès Orange, quand YouTube rame aux heures de pointe, vous décidez de passer par le VPN de FDN, ce qui donc a priori rallonge le chemin et consomme de la bande passante pour rien, et tout d'un coup, YouTube en haute def, ça fonctionne. C'est magique. Je suis pas du tout sûr qu'au sens du régulateur des télécoms, le fait de fournir des VPN soit considéré comme le métier de fournisseur d'accès. Pourtant, techniquement, fournir de l'accès VPN en utilisant la norme, enfin le logiciel OpenVPN, ou fournir de l'accès ADSL, c'est le même boulot. C'est juste que le logiciel de tunneling en ADSL s'appelle L2TPNS. Y a des gens qui voient ce que c'est L2TP ? C'est un protocole de tunnel utilisé par les opérateurs en livraison. C'est-à-dire que quand vous prenez un accès ADSL FDN, tout le trafic de votre ligne arrivera sous forme d'un VPN sur un routeur de FDN. Et le protocole de livraison s'appelle L2TP, Level 2 Tunneling Protocol. Il se trouve que maintenant, des implémentations en logiciel libre de L2TP, il y en a qui fonctionnent très bien. Et que c'est précisément depuis qu'il y en a qui fonctionnent très bien qu'FDN peut faire de la DSL. Donc techniquement, pour nous, un abonné en VPN ou un abonné en ADSL, c'est la même chose. C'est une adresse IP publique au bout d'un tunnel. Si vous, vous voyez une différence, c'est dans votre tête. C'est techniquement pas vrai. Donc ça, c'est ce que fait FDN. Si je présente un petit peu ce que font nos camarades. Alors, pourquoi on est devenu une fédération ? Parce que FDN commençait à devenir relativement gros il y a quelques années de ça. Quand on a atteint à peu près 400 adhérents, on arrivait petit à ce que j'ai des crampes quand il fallait signer les convocations à l'Assemblée Générale, parce qu'à l'époque j'étais encore président de FDN, petit 2, à ce que je ne me souvienne plus des noms des adhérents. Parce que ben, quand il y en avait 10 ou 15 par an qui rejoignaient l'association, je retenais les noms des gens dont je voyais passer le bulletin d'adhésion, même si je les avais jamais rencontrés, je faisais « Ah tiens, lui, il est adhérent, je me souviens de son nom ». Et puis, quand ils sont 50 ou 60 dans l'année à arriver, ben, hein, Clément, comment tu dis ? Je sais pas, non, je me souviens pas. Pourtant, j'ai vu son bulletin d'adhésion, mais bon. Donc, c'était pour moi les deux signes clés du fait que soit j'étais atteint d'Alzheimer, soit il fallait ramener l'association à une taille raisonnable et donc en faire émerger d'autres. Et c'est de cette volonté de faire émerger d'autres associations qu'est née la fédération FDN. Donc, une grande catégorie d'associations qui sont membres de la Fédé sont ceux que j'appelle les Wi-Fistes. En fait, qui couvrent des zones blanches en Wi-Fi. C'est important comme exemple. Ils déploient leur propre réseau physique. Si vous cherchez un équivalent dans le monde de la DSL ou dans le monde de la fibre optique, ils déploient le réseau physique jusqu'à l'abonné. Puisque le réseau physique est en Wi-Fi, mais la dernière antenne sur le toit de l'abonné, en général, c'est eux qui la posent. Et puis, bah, toutes les antennes sur des poteaux, des points hauts, des toits, des châteaux d'eau, des clochers, etc., qui forment le maillage du réseau, c'est un réseau physique. On a donc dans la fédération FDN des opérateurs qui déploient leur propre réseau physique. Free peut pas en dire autant. Hormis 3 ou 4 accès fibres qu'ils ont posés pour montrer comment il fallait faire, c'est très peu commun en fait, hein, chez les opérateurs. Donc ceux des membres de la fédération qui font ça, dont c'est l'activité, ils font tout, depuis la couche la plus basse, qui est fabriquer le réseau physique, jusqu'à fournir une adresse mail à ceux des adhérents qui en veulent. Donc ils ont un panel extrêmement large. Alors, ruraux et étudiants, oui, il y a deux marques, en fait. Il y a les gens qui font ça en zone rurale, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas d'accès. Et on en a quelques-uns qui travaillent en ville pour fournir des accès Wi-Fi à des étudiants. C'est le cas sur Compiègne d'un réseau qui s'appelle Rhizome. Et qui fonctionne assez bien, qui a de mémoire quelques dizaines d'abonnés. C'est un truc monté par des étudiants de l'UTC. Donc, voilà. Ça fonctionne assez bien. Les Wi-Fistes sont parmi les adhérents de la fédération ceux qui ont le plus de visibilité dans la presse, parce que la presse locale commence à se réveiller un tout petit peu et à se rendre compte qu'il y a des choses qui bougent en matière de réseau en race campagne en France et que les choses qui bougent sont associatives. La deuxième grande catégorie sont ceux qui font de la DSL et qui, en fait, pour la majorité d'entre eux, s'appuient sur ce que fait FDN. C'est-à-dire que tout le nécessaire pour faire de la DSL a déjà été mis en place par FDN, ça coûte relativement cher à mettre en place. Relativement, parce que c'est pas extraordinaire, monter un opérateur de collecte à DSL, c'est en gros 3000 euros d'investissement. Donc c'est pas insurmontable. Mais pour une assoce qui vient de se monter où il y a 5 personnes, 3000 euros, ça se trouve pas comme ça. Donc ceux des membres de la fédération qui font de la DSL, en général, commencent par s'appuyer sur l'infrastructure de FDN, et certains sont en train de regarder comment monter une deuxième infrastructure différente à côté, basée sur d'autres fournisseurs, livrée pas sur le même point, liée par pas par les mêmes contrats, pour obtenir une certaine forme de redondance. C'est-à-dire si jamais FDN disparaissait, que l'ensemble ne disparaisse pas. L'intérêt essentiel de cette approche-là, c'est que c'est simple. Une association qui a envie de suivre ce chemin-là pour commencer à apprendre, ça se monte en quelques mois. Et ça peut tourner assez rapidement. Le dernier né étant Ilot, qui a ouvert son premier accès aujourd'hui, c'est ça ? Donc qui doit être, qui est le 20e ou le 21e adhérent de la fédération. Donc voilà à quoi ça ressemble. En conclusion, le mouvement d'essaimage pour transformer l'association FDN en une fédération a 3 ans. En 3 ans, il s'est créé ou nous ont rejoint 21 associations qui totalisent plus de 1400 adhérents. Ceux d'entre vous qui ont un accès Internet peuvent me donner le compte exact. 1496 aujourd'hui. Donc, voilà, il en manque 4 pour faire un compte rond. C'est pas mal. Je sais qu'il y a d'autres mouvements associatifs qui sont pas très loin d'être des fournisseurs d'accès. C'est le cas du CRANS. C'est le cas de, en fait, des associations de la Fédération Fédéraise, si je ne me trompe pas. Qui, à mon sens, ne sont pas tout à fait des fournisseurs d'accès Internet. En fait, principalement parce qu'ils n'en ont pas conscience et parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils font. C'est leur côté Monsieur Jourdain, ils font de la prose, ils sont pas au courant, et dès qu'on leur aura dit, ça sera plus clair dans leur tête. C'est assez important, cet élément-là. Savoir ce que vous êtes et ce que vous faites, c'est assez important. Quand on fait cuire du pain pour tout le village, qu'on soit une association ou une coopérative, ou une entreprise, ou un particulier, on est un boulanger. C'est comme ça. Quand on fournit de l'accès Internet aux gens, qu'on soit une association, une coopérative, une entreprise, une société anonyme, on est un fournisseur d'accès Internet et on est un opérateur au sens de la loi, et il vaut mieux l'accepter, le comprendre et comprendre ce qui va avec. En particulier parce que vous verrez, ça simplifie dans la tête plein de choses. Quand vous vous demandez est-ce que je dois faire ça, est-ce que c'est normal que... Est-ce que je monte un serveur mail pour que les gars qui sont abonnés aient une adresse? Ben oui. Est-ce que c'est obligé? Ben non. Est-ce que mes abonnés ont le droit d'avoir leur serveur mail dans leur piole? Ben oui, c'est évident, sinon c'est pas de l'accès Internet que j'ai fourni. Donc voilà, ça simplifie plein de grilles de lecture. Savoir bien sur quelle case on est et ce qu'on y fait. Voilà. C'était les deux éléments clés. Il se trouve que l'an dernier, ou il y a 2 ans, je sais plus, quand je suis venu faire une conférence ici, il y a 2 ans au JIRES, j'avais annoncé qu'on ferait des choses pour les otages de Renater. Donc ça c'est fait. Maintenant, FDN nettoie les connexions Internet. Donc pour ceux, je crois que c'est plus le cas au CRANS, mais que c'est encore le cas à pas mal d'endroits où il y a des accès qui dépendent de Renater. Ceux qui ont des accès filtrés, les VPN FDN défiltrent. Et puis ben, le reste c'est écrit, le CRANS est en infraction, démerdez-vous. Voilà, moi j'ai fini.
Merci. Donc on va prendre des questions du coup, si vous en avez. Quelqu'un a une question?
C'est une question tout à fait personnelle, mais c'était pour savoir si tu avais ouvert ton courrier et récupéré l'adhésion de Neutrinet à Gitoyen.
Oui.
Ah. Merci.
Oui, j'ai reçu l'adhésion de Neutrinet à Gitoyen.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Neutrinet qui devrait être probablement le 22 ou 23e opérateur ou membre de la fédération ou correspondant de la fédération. Ce point n'étant pas encore complètement tranché. Oui.
Oui, bonjour. Je pense que le cas du CRAN, c'est un peu particulier, parce que, étant donné qu'il est raccordé par Renater, il y a des règles qui sont définies par le fait qu'il passe par Renater, qui limitent les possibilités d'utilisation du réseau, beaucoup plus que quand on se connecte par Free, Orange ou je ne sais qui. Donc, ils ne peuvent pas offrir les mêmes services que, et ils sont obligés de limiter les règles d'utilisation, contrairement à ce que ferait un autre opérateur. Donc les règles du jeu, je pense, ne sont pas exactement les mêmes quand on est connecté par le CRANS ou quand on est connecté par Tartampion.
Eh ben, je ne suis pas d'accord avec cette analyse. Mais moi, je m'appuie sur du droit pour ne pas être d'accord. Je considère, après je me trompe peut-être, hein, mais je considère qu'au sens de l'article L33.1 du Code des postes et communications électroniques, ou au sens du grand 1 de l'article 6 de la LCEN, le CRANS est un fournisseur d'accès au réseau de communication électronique en ligne. Point. Que donc, étant cela, qu'il se soit déclaré ou pas, ne s'étant pas déclaré, il est dans l'illégalité, ce qui est un détail, ça change rien à ce qu'il est. Étant opérateur d'un réseau de communication électronique ouvert au public, il en découle des obligations et il en découle un certain nombre d'interdictions. Filtrer les communications, c'est interdit. C'est comme ça. Imposer un certain nombre d'usages, c'est interdit. C'est comme ça. Que Renater veuille imposer des choses au CRANS, je suis assez convaincu que c'est interdit. Donc, faut pas inverser les choses. Renater est opérateur de réseau. Après, Renater peut considérer que le CRANS n'a pas à faire partie de ses abonnés. Ça, c'est très possible. Mais il se trouve que si j'ai bien compris le montage juridique, c'est pas le CRANS qui est abonné chez Renater, c'est l'ENS Cachan. Et il se trouve que parmi les usages que l'ENS Cachan fait du réseau, il y a le fait de fournir de l'accès Internet chez les particuliers, et que cet usage-là est extrêmement encadré. Et je pense que l'ensemble du montage est en infraction. Mais mon propos d'aujourd'hui était de dire le CRANS est en infraction parce qu'il n'est pas déclaré comme opérateur. Le propos disant l'ensemble est une infraction au code des postes et communications électroniques parce qu'il y a filtrage et à cause de la charte Renater, c'était mon propos des JIRES il y a 2 ans. Mais je maintiens mon propos des JIRES il y a 2 ans. L'ensemble est, à mon sens, en infraction et en contravention avec la loi.
Il faudrait se méfier de peut-être pas secouer le cocotier trop fort, parce que ça finirait peut-être par casser totalement la relation entre le CRANS et Renater.
C'est un risque.
Ouais. Tu dis que le CRANS est en infraction, mais qu'est-ce qu'il en est, par exemple, des grands opérateurs Rouge, Orange et autres?
Alors, en infraction vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis du fait d'être déclaré. Alors, le fait qu'il soit déclaré auprès de l'ARCEP, ça, je suis certain que c'est le cas.
Okay. Non, ça, j'y crois. Non, par rapport au filtrage.
Eh ben, par rapport au filtrage, il y en a quand même assez peu du filtrage, et quand il y en a, ils se font taper sur les doigts.
Il y a eu des tapages de doigts, entre guillemets.
Ah oui, il y a eu, oui. Oui, il y a eu. Il y a eu même il n'y a pas très très longtemps. C'est très soft parce que les filtrages qu'ils font sont extrêmement légers. Mais typiquement, le fait qu'on puisse pas utiliser Skype sur les téléphones mobiles, ça a fait faire les gros yeux, et donc ils se sont lentement calmés. Le fait qu'ils filtrent tout et n'importe quoi sur les téléphones mobiles, j'avais été tenir des propos à peu près aussi séditieux et aussi peu aimables que ceux que je tiens aujourd'hui, lors d'un symposium international de l'ARCEP sur la neutralité du net, il y a 2 ans, 3 ans, et effectivement, le régulateur s'était dit « Ah tiens, c'est pas bête, c'est vrai que c'est pas normal qu'on puisse pas utiliser Skype depuis un soi-disant accès Internet mobile, qu'est-ce que c'est que ce foutoir ?» Et les opérateurs se sont un petit peu calmés. Tout n'est pas réglé, mais ça tend à se calmer. Je t'assure que si Orange impose la charte Renater à ses abonnés, ils se prennent un procès dans la demi-heure et ils ont perdu. Mais c'est certain, c'est totalement certain. Ils ont perdu, sans l'ombre d'un doute, ils ont perdu devant l'ARCEP, ils ont perdu devant la Commission européenne, ils ont perdu devant n'importe quel tribunal de commerce. Enfin, c'est pas défendable. Ce truc est tellement idiot qu'il n'est pas défendable. Qu'il s'applique dans les salles de TD, c'est normal. Qu'il s'applique dans les logements des gens, ça n'est pas défendable. C'est contraire à tout ce qu'on peut imaginer comme droit, depuis la Déclaration des droits de l'homme jusqu'au Code des postes et communications électroniques. Après, si le simple fait de passer par Renater est un moyen de ne pas respecter la loi, je connais plusieurs mafias que ça va intéresser.
Alors, la position de Renater sur les accès résidentiels, c'est qu'il n'existe pas. Voilà. Il ferme les yeux là-dessus et il les ignore. Et quand les gens leur disent « Oui, bonjour, je suis une grande école, je voudrais fournir de l'accès Internet aux personnes qui sont dans ma résidence », ils disent « Eh bien non, vous ne pouvez pas faire ça sur Renater. » Quand on leur dit « Mais tout le monde le fait », ils disent « Mais non. »
Débrouillez-vous.
Qu'est-ce qu'on peut faire ? Enfin, qu'est-ce qui...
Ah, moi j'ai plein d'idées sur des trucs à faire. Plein. J'ai des solutions de voyous, j'ai des solutions beaucoup plus drôles. La solution de voyous, c'est très simple. Je sais pas combien d'accès opère le CRANS. 1300, je crois. C'est ce que me dit ma mémoire. Vous routez un paquet de 1048 adresses IP, c'est juste rien. Les mettre au bout d'un VPN, c'est juste rien. Il se trouve qu'on est en peering avec Renater. Du coup, il y a un accès. Un seul. Et le CRANS fera ce qu'il veut de ses IP. C'est vachement simple, hein, ça. Voilà, ça c'est une solution simple et pragmatique. Elle peut avoir un coût. Parce qu'il faudrait tout d'un coup payer la bande passante, il faudrait tout d'un coup, etc. Mais ça c'est une solution technique simple. Si on ne cherche pas les solutions techniques, mais qu'on cherche les solutions juridiques, ce qui moi m'intéresse beaucoup plus, soit Renater reconnaît que le CRANS existe et donc admet qu'il y a des accès fournis à des étudiants dans leur piôle. Le braquage de la BNP n'existe pas ne suffit pas devant le tribunal pour en être innocenté. Le simple fait que l'Église dise qu'il n'y a jamais eu d'acte pédophile commis par aucun curé, parce que de toute façon les curés n'existent pas, ne suffit pas. Il faut un peu mieux pour se défendre. Et donc Renater qui dit ça n'existe pas, et, enfin, voilà, ça suffit. Quoi. Il y a un moment où il faut un tout petit peu de bon sens. Ils savent parfaitement que ça existe, même si c'est pas écrit dans les contrats. Ils savent très bien que ça a lieu. C'est à eux de se mettre au carré. Et le grand problème qu'ils vont avoir, c'est que s'ils vous permettent d'opérer, mais qu'ils veulent pas de vous, ils vont être obligés d'ouvrir le réseau. C'est-à-dire qu'ils vont être obligés de permettre à d'autres opérateurs que Renater de venir raccorder le NS Cachan. Ou le plateau de Saclay, hein, moi je dis ça, c'est pour rire. Mais ça veut dire que quelque chose qui est leur petit monopole et qui est leur raison d'être en tant qu'ils sont un groupement d'intérêt public, ils pourraient se retrouver obligés d'accepter qu'un opérateur privé, mettons Level 3, Colt, Cogent, Jaguar, n'importe lequel, il y en a 100, enfin, aient le droit de venir mettre leur petit doigt dans ce que Renater considère comme étant son précaré. Et ça, ils vont pas aimer du tout. C'est-à-dire se retrouver dans la position d'un opérateur historique obligé d'ouvrir l'accès à ses infrastructures pour permettre à des opérateurs privés de venir mettre le nez dedans, permettre à tout moment aux grandes écoles qui sont membres du réseau Renater d'en sortir pour aller ailleurs sans repayer les infras, ils vont pas forcément apprécier. Je pense qu'ils auraient moins coûteux et moins dangereux de mettre au propre leur relation avec le CRANS.
Mais voilà, c'est justement sur ce point-là, des choses qui fait que on a entendu dire que Renater ne veut pas reconnaître les résidences étudiants et qu'ils ont un peu peur d'être attaqués pour concurrence déloyale. Parce que c'est vrai que ben, finalement, ils donnent une connexion Internet de 1 gigabit à un campus de 1000 personnes pour 3 fois rien.
Ça, c'est parce qu'ils ne sont pas très doués. Si justement ils mettaient au propre la gestion contractuelle, les gens qui donnent un accès gigabit pour presque rien, c'est le CRANS, c'est pas Renater. Si le contrat est mis au propre, si c'est pas mis au propre, le seul qui est opérateur dans la pile quand on dépile tout le merdier, c'est Renater. Mais qu'une association fournisse pour presque rien ce qu'une entreprise fournit pour très cher, c'est normal. Ce sera considéré par n'importe quel tribunal comme étant normal. Et il se trouve qu'à l'heure actuelle, le montage est assez sain. C'est-à-dire que Crans, opérateur, récupère sa bande passante sous forme d'une subvention auprès de l'ENS, et c'est l'ENS qui est cliente, entre guillemets, chez Renater. Tout va très bien. Juste, la charte Renater n'a pas à s'appliquer dans les logements. Point. Et on parle même pas de modification technique, on parle juste de bon sens pour respecter le droit. C'est pas très compliqué, hein.
Pour changer un petit peu de sujet, quoi de neuf côté IPv6 au niveau de l'association, enfin de votre association de fournisseurs d'accès?
Alors, de l'IPv6, alors il se trouve que ce qui est mis en commun dans la fédération FDN, ce ne sont pas les infrastructures. C'est-à-dire que on n'a pas tous le même réseau et on n'a pas tous les mêmes fournisseurs en matière d'accès réseau. IPv6 fonctionne autant que je sache partout dans la fédération. Après, je suis pas certain que tous les wifistes aient déployé du V6, mais sur l'infra ADSL ça marche, sur les VPN de mémoire ça fonctionne. Chez ceux des opérateurs qui ne s'appuient pas sur les infrastructures de FDN, pardon, autant que je sache ça fonctionne. C'est le cas en particulier chez Theta Neutral où l'IPv6 fonctionne. Ce qu'on envisage de faire et qui n'est pas encore mis en place, qui est juste dans les cartons, c'est de fournir des tunnels VPN en IPv6 only. De même que des accès ADSL en IPv6 only pour quand on sera arrivé au bout de nos stocks d'IPv4. Et qu'on ne pourra plus en obtenir et qu'on ne pourra plus en récupérer même en raclant les fonds de tiroir.
Oui, vous m'avez beaucoup surpris là avec vos 4000 IP V4 que vous sortiez de votre chapeau tout à l'heure. Vous avez vraiment tout ça en stock?
Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. En fournir 1500, c'est certain que oui. Il reste un petit peu de place, hein, sur les réseaux de citoyens. Donc 1500 IP, on les a. 4000, ça se vérifie.
Et au niveau de votre offre VPN IPv6 only, ça serait possible d'avoir plus gros qu'un /64, ce que propose actuellement Free?
Ce que propose FDN, alors je ne sais plus quelle est la norme chez nous, si c'est un 48 ou un 56. Je crois que c'est un /48 la norme chez nous. Je n'ai pas de... Voilà. On ne s'est pas posé la question plus que ça, des IPv6, on en a une quantité indescriptible.
Oui, enfin, il y a 20 ans, on pensait la même chose de l'IPv4.
Oui, oui, hein. Je sais bien, mais il se trouve que, voilà, on a beau en consommer très peu, on en a beaucoup. Il y a une question au premier rang.
Juste, j'aurais aimé que tu réexpliques un peu rapidement comment ça se passe pour les différentes composantes de la fédération, pour être sûr d'avoir bien compris, parce que moi, de ce que j'ai compris, il y en a certains, bon, qui ont leurs propres infrastructures, qui louent leur bande passante et qui gèrent complètement leur connexion, et il y en a d'autres qui font de la collecte ADSL, et si j'ai bien compris, qui vous renvoient, enfin, vous louez la bande passante, et eux se contentent de faire de la collecte ADSL et de vous renvoyer les flux. Est-ce que c'est ça, ou est-ce que...
C'est même plus caricatural que ça. Le plus light en matière de membres de la fédération, c'est ne gérer que la vie associative et la relation avec les gens. Puisque l'accès ADSL est construit sur les infrastructures de FDN, le routage est assuré par FDN et par Jitoyen pour la partie IP. Et donc en fait, l'association ne gère que l'aspect associatif, c'est-à-dire voir les gens, gérer, alors techniquement c'est la facturation tous les mois, etc. Mais c'est en fait gérer de l'humain, quoi, gérer les relations avec les gens. Ça c'est la version la plus light pour les gens qui passent par la collecte ADSL de FDN. En général, les gens qui font ça font d'autres choses à côté. Parce que à force de se retrouver à 10, 15, plus ou moins passionnés par le sujet, ils ont envie de faire des choses. Et donc ils finissent par qui faire du Wi-Fi dans les zones où il n'y a rien dans la race campagne autour de chez eux, qui regarder comment faire un point de peering régional, qui regarder comment mettre les doigts dans la fibre optique dans le département, dans la région ou dans la ville, etc., etc. En fait, une fois qu'il existe une association de gens qui ont envie de faire des choses, certains travaillent à construire une autre infrastructure de collecte ADSL pour faire doublon avec celle de FDN et pour qu'on en ait plusieurs dans la Fédé. Et d'autres décident qu'ils n'ont pas envie de bosser sur un truc qui est déjà fait et qu'ils ont envie de faire des trucs neufs et ils essayent de faire des trucs neufs. Mais donc oui, les plus légers techniquement ne font techniquement presque rien. Ils apprennent beaucoup. Ils nous filent un coup de main pour faire tourner FDN, histoire de regarder comment ça marche, même quand on a les doigts dedans. Mais ils apprennent. Et en général, assez vite, ils montent d'autres morceaux tout seuls pour se détacher, pour apprendre, pour que ça fasse doublon, pour que ce soit hébergé ailleurs, pour que ce soit construit différemment, etc. On finirait dans 2-3 ans par avoir en tout 3 collectes ADSL dans FDN, je serais pas surpris.
Mais juste pour revenir sur la problématique du CRANS et d'autres associations qui sont un peu du même genre dans leur relation avec Renater, est-ce que, d'après ce que je comprends, moi, de cette solution, Renater doit finalement reconnaître l'existence de ces associations, de ces fournisseurs d'accès, plutôt, et doit leur permettre d'utiliser le réseau moyennant paiement d'une certaine bande passante ou tout ça. Mais par exemple, si je prends le cas de l'ENS, comme d'ailleurs le cas d'autres établissements qui sont dans le Val-de-Bièvre, il y a un réseau de collecte qui s'appelle Ruby, hein, sur lequel ces établissements sont raccordés, et ce réseau est lui-même raccordé à Renater. Mais si je ne dis pas de bêtises, ce sont deux réseaux qui sont distincts. Et on passe par d'abord un réseau de collecte qui pourrait théoriquement être ouvert à d'autres opérateurs et sur lequel on pourrait amener d'autres points d'accès. Ça a d'ailleurs été à un moment une volonté de la personne qui s'en occupait. Je ne sais pas où ça en est. Même si je pense qu'il y a des oppositions et que c'est pas forcément immédiat. Est-ce que ça serait pas une solution que de ramener, par exemple, de louer de la bande passante et de ramener un point d'accès différent sur ce réseau de collecte, de manière à router d'autres types de trafic, comme celui du CRANS ou même celui d'autres entités qui pourraient aussi bénéficier de ce réseau?
Ça, c'est une solution qui est très conflictuelle, très coûteuse et qui complique la vie d'énormément de gens en bouleversant beaucoup de points d'équilibre. La solution qui consiste à dire, pour Renater, la charte Renater ne s'applique pas dans les logements des particuliers, elle coûte rien. Elle déstabilise aucun montage contractuel. Elle ne remet pas en cause des investissements publics sur 5, 10, 15 ans pour telle ou telle construction d'une infrastructure physique. C'est une solution beaucoup plus légère qui consiste à dire la charte Renater ne s'applique que dans les locaux d'enseignement et pas dans les locaux d'habitation. C'est très light. Et ça veut dire que du coup, les questions de on embête telle ou telle association avec tel ou tel filtrage, tel ou tel contrôle de l'upload, tel ou tel... Enfin, voilà. Tout ça dégage. Parce que tout ça n'a pas de sens. C'est le moins compliqué. C'est ce qui crée le moins de vagues et le moins de remous. La solution dure, celle que tu décris, elle crée immédiatement plein de problèmes pour Renater, parce qu'elle veut dire que Renater est un fournisseur de bande passante et de transit comme n'importe quel autre, et que donc telle ou telle école, université, etc. peut décider de changer d'opérateur de transit et peut donc quitter le réseau Renater à tout moment. Ce qui veut dire que les points d'interconnexion qui à l'heure actuelle sont totalement privatifs, deviennent publics, deviennent ouverts au public, deviennent ouverts à n'importe quel opérateur. Ça se met à créer plein d'emmerdes, mais plein. Ça peut être considéré comme très drôle, je suis pas sûr. Ça force à libéraliser un marché qui pour le moment marche et est efficace, pour le rendre probablement moins efficace économiquement et moins efficace techniquement. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait un gain immense. Il n'empêche que le fait que Renater dise ça n'existe pas, donc on n'en parle pas et on fait n'importe quoi en matière d'atteinte aux droits, c'est pas bon. Faut faire mieux. Et c'est pas très dur de faire mieux. C'est-à-dire qu'ils sont en train de résoudre un petit caca nerveux qui ne correspond à rien. Enfin, je veux dire, les visions de la charte Renater, comment dire, c'est tellement siècle dernier. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est qu'un opérateur puisse dire ce que les utilisateurs doivent faire, c'est contre nature. Et même quand l'opérateur dit dans les locaux d'enseignement, c'est contre nature. Structurellement, c'est contre nature. La charte Renater est contre nature. Que l'ENS dise dans les labos, vous n'avez pas le droit de faire ci ou de faire ça, ça relève du règlement intérieur. Mais c'est pas à Renater de le dire, c'est pas son boulot. Le boulot de Renater, c'est de transporter des octets, c'est pas de faire perdre la morale. Mais c'est super important, parce que si t'acceptes que Renater fait perdre la morale pour la totalité des étudiants et des chercheurs de France, alors pourquoi Orange ne fait pas perdre la morale pour la totalité de la population?
Et là, c'est un problème qui va largement au-delà des associations comme le CRANS, en fait.
C'est toutes les associations de.
C'est un problème qui regroupe tous les établissements d'enseignement supérieur, en fait. Oui. Et à la limite, la position de Renater actuelle, enfin, je veux dire, ils en ont juste rien à battre
C'est bien pour ça que moi, j'en parlais pas spécialement aujourd'hui. Moi, je parlais du fait que le CRANS soit pas déclaré comme opérateur. La conférence dans laquelle j'ai abordé ce sujet-là, c'était au JIRES, juste avant le patron de Renater.
Je me souviens, j'étais là, je suis très bien.
Donc voilà, c'était précisément le bon moment pour le dire. Je suis pas sûr qu'il l'ait compris, je suis pas sûr qu'il l'ait bien pris, je suis pas sûr que... Voilà, mais... Je constate qu'il n'a pas posé calmement de questions à la fin, donc j'ai supposé qu'il avait compris. Mais... je suis convaincu qu'il y a un vrai problème là-dessus. On pourrait se dire, les étudiants, c'est pas tout à fait sérieux, c'est pas des vrais gens, quoi. Un étudiant, c'est pas encore complètement un être humain. C'est une variété d'animal de compagnie. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi des vrais gens. Le gardien du campus de telle ou telle université, son logement est raccordé sur le réseau de la fac, donc sur Renater, et donc la charte s'applique. Il n'a pas le droit de regarder du porn quand il s'emmerde le soir.
C'est pas automatique. À l'ENS, on l'a fait en tant que CRANS. Ça a été une volonté du CRANS à la limite de le faire, mais pendant des années et des années, ça n'a pas été le cas et l'ENS en avait rien à battre, en fait. Ouais. Et chaque membre du personnel logé dans les logements de fonction avait sa connexion ADSL quand on voulait bien lui brasser sa prise correctement à l'autocom. Donc ça a été loin d'être automatique. Alors je sais pas comment ça se passe dans les autres universités, mais ça me paraît pas forcément évident que tous les logements de fonction soient raccordés sur un réseau comme ça, quoi.
Eh ben, c'est très variable d'une université à l'autre, et en fait, ça dépend à chaque fois de est-ce que l'admin système et réseau a un peu compris ce qu'il fait, a un tout petit peu d'épine dorsale, et c'est très 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 variable, en fait. La monstruosité qu'est la charte Renater et qui n'est pas appliquée par Renater, c'est pas Renater qui filtre, hein, c'est jamais Renater qui filtre. Le réseau Renater est parfaitement propre. Il n'est pas filtré, il est neutre, il transporte tout dans tous les sens, il n'y a pas de problème avec. Ce sont les admins des universités qui, en application de la charte Renater, font tout n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Et pour moi, le problème de base est ce texte débile qu'est la charte Renater, et la solution se trouvera en réformant ce texte-là. Et la réforme que j'ai en tête, parce que j'y ai pas plus réfléchi que ça, hein, c'est dire il s'applique pas dans les logements. Une fois qu'on a dit qu'il s'applique pas dans les logements, on résout plein de problèmes. Et en particulier, ça donne un moyen de dire à l'admin système très craintif de telle ou telle université, t'es très craintif tout ce que tu veux pour tes salles de TP, mais tu touches pas au logement des gens. C'est un... Le problème quand tu commences à édicter des textes idiots comme ça, même s'ils n'ont pas de pouvoir, hein, la charte Renater n'a aucune valeur normative et je pense qu'elle engage à peu près rien. Je ne suis pas sûr qu'un tribunal lui reconnaisse quelque valeur que ce soit. En particulier, ça a sûrement une certaine valeur dans la relation entre l'étudiant et l'opérateur de réseau dans le cadre des études, et donc Renater pourrait refuser de te fournir un accès pendant que tu es en TP, je vois pas bien comment. Mais en particulier, cette charte donnerait rien dans le cadre d'une. Enfin, si tu veux quelque chose en justice entre Crans et Renater, il se passerait rien. Quoi. Enfin, la charte a pas de valeur. J'en suis à peu près convaincu. Elle est trop bizarre, je pense, pour être appliquée directement. Donc, c'est un des problèmes quand on donne ce genre de pouvoir aux opérateurs, c'est même s'ils l'appliquent pas, puisque Renater ne filtre rien. Ce pouvoir redescend après sur plein de gens sous forme de consignes plus ou moins bien comprises qui permettent à chaque petit admin de faire un peu sa toutouille dans son coin en application de la loi martiale, et ça donne plein de petits pouvoirs à plein de petits chefs qui se croient autorisés d'eux, et enfin voilà, c'est très malsain, c'est malsain d'un bout à l'autre, et voilà, moi
c'est plus un problème qui est réglé au niveau de Fédérès qu'au niveau de l'association, parce que au niveau de chaque association, quoi.
C'est plus à traiter.
Il faut une visibilité aussi, enfin, sur un truc comme ça.
C'est beaucoup plus à traiter globalement. Mais c'était pas le propos d'aujourd'hui, hein. Encore une fois. C'était mon propos d'il y a 2 ans. Et oui, c'est plutôt à traiter globalement. Et c'est même pas au niveau de Fédérès qu'il faut traiter ça, c'est au niveau de Renater. Il faut trouver quelqu'un de pas bête qui veuille bouger.
On a encore une question là-bas. Il y en a beaucoup.
Là, il y a un pack de jeunes avec des portables qui parlent pas.
Oui, donc bonjour. Donc c'était juste pour dire que en fait, je pense pas que le fait de d'enlever cette charte Renater en fait rassure les administrateurs système des écoles, parce que en fait, c'est pas sûr que les écoles arrête d'essayer d'être moralisatrice au niveau des accès, puisque dans un tel montage, en fait, donc la connexion passerait quand même par les écoles, et les écoles pourraient en fait se sentir responsables de la connexion qui donne finalement aux associations. Et je pense que ça peut être un point dur pour, en tout cas pour certaines écoles. Dans ce cas-là, c'est pas non. Je pense pas que ce soit une solution vraiment pour tout le monde.
Il se trouve que dans la pratique, si. Mais pour ça, faut être un tout petit peu conforme à la loi. À l'heure actuelle, si je prends l'exemple de Cachan, l'ENS est complice d'un opérateur pirate. Et Renater est complice d'un opérateur pirate. Le Crans est opérateur, pas déclaré auprès du régulateur, donc dont on ne sait pas s'il satisfait à ses obligations légales. Les obligations légales étant entre autres le respect de la vie privée des abonnés, le fait qu'ils aient accès au contenu de leur choix, etc. Plus un certain nombre d'obligations en termes de police, comment se passent les réquisitions judiciaires. Si j'ai bien compris, la police adresse ses réquisitions judiciaires au Crans. Elle est bien bonne, la police, d'adresser ses réquisitions judiciaires à quelqu'un qui n'est pas opérateur de réseau. Et elle est bien bonne de fermer les yeux sur le fait que cet opérateur n'est pas déclaré. Vous avez de la chance que les officiers de police qui bossent là-dessus soient pas spécialisés dans le droit des télécoms. Voilà. En fait, quand le truc est carré, ça marche tout seul. Parce que quand le truc est carré, c'est pas un accès. Le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, quand tu utilises ton accès réseau dans ta piole sur le Crans, légalement, t'es en train d'utiliser un accès de l'école dans le cadre de TP ou de TD. C'est ça, sur le plan juridique. Et donc l'école est responsable, même s'il y a une charte. Et au mieux, en tant qu'élève d'une école qui n'a pas respecté la charte, tu pourrais être exclu de tes études, ce qui est quand même débile pour quelque chose que t'as fait dans ta piole. C'est quand même le truc qui n'a rien à voir avec tes études. Si on met le truc au propre, c'est-à-dire presque rien, le Crans devient fournisseur d'accès Internet de manière très officielle, dont tu es un abonné. Bah, t'es un abonné, tu fais ce que tu veux dans ta chambre. T'as fait un truc illégal en tant qu'abonné, eh ben t'iras voir la police, ou la police viendra te voir. Et ça se passera très gentiment, et du coup, l'exonération de responsabilité que tout le monde recherche, que Renater recherche en disant c'est pas ma faute, que l'école recherche en faisant signer des chartes et en disant c'est pas ma faute, en fait, ce qu'ils veulent ces gens-là, c'est juste que ça soit pas leur faute. Eh bien, à partir du moment où vous êtes légalement fournisseur d'accès au sens prévu par la loi, alors vous n'êtes pas responsable de ce que font vos abonnés, c'est ce que disent les directives européennes.
Oui, en fait, légalement, c'est ce qui se passerait. Mais il y a aussi le fait que les écoles ont peut-être pas forcément envie de voir leur nom associé à des problèmes sur ce genre de réseau.
Mais leur nom ne serait pas plus associé que le nom de Free ou Orange ne sont associés dans les affaires de pédophilie où on ferme des réseaux.
Oui, bien sûr, mais après, j'ai l'impression que c'est quand même ce qu'ils pensent, eux. Alors, est-ce que...
Ah bah oui, bah, ça, j'y peux rien, moi. Enfin, ça me paraît moins grave que les étudiants qui se font poignarder, si je puis me permettre, pour prendre une anecdote locale.
Admettons qu'une hypothétique association devienne opérateur et qu'elle décide de dire le mot de Cambronne à la charte Renater, ouais. Vers qui elle peut se tourner pour avoir de l'aide, parce que vu le renouvellement typique d'un conseil d'administration du CRANS, par exemple, ça peut être difficile à porter parce que ça ne doit pas se faire en un jour. À qui on demande de l'aide, à quel juriste, qui peut nous aider.
Le problème, c'est qu'un juriste pourra rien contre un État qui n'est pas tenu par du légal. À part te lister la liste des points d'illégalité dans le montage actuel, un juriste ne servira à rien. Par contre, chercher à faire un montage autre, c'est des choses qui vont arranger personne. Ça va compliquer la vie de Renater, puisque ça va les obliger à ouvrir une partie de l'infrastructure. Ça va vous coûter beaucoup plus cher. Parce qu'à l'heure actuelle, vous fournissez quand même un accès sur un réseau gratuit, donc c'est pas mal comme condition tarifaire. Ça va arranger personne. Mais monter des solutions autres que Renater, c'est pas dur. J'ai aucune idée de la quantité de transit que consomment les abonnés du CRANS. Mais livrer 10 gigabits de transit à Cachan, je pense qu'il y a plein d'opérateurs que ça intéresse et qui savent faire. Et les problèmes sont simplement les problèmes d'accès à l'infrastructure. C'est-à-dire les 3 ou 4 derniers kilomètres entre le dernier point civilisé et le NS Cachan. Et ce bout-là, il existe déjà, puisque Renater s'en sert, et je suis persuadé qu'il n'est pas complètement ouvert. Mais voilà, il suffit de l'ouvrir comme il faut. Et je veux dire, 10 gigabits de transit à acheter, c'est cher, mais ça peut avoir du sens. Et n'importe quel opérateur serait ravi de livrer ça. Je sais pas, Octopus, vous fournissez du réseau ? Non. DG, on a dit.
Je crois qu'il y avait encore une question.
Ben non. Il faut d'abord avoir une solution de répli.
Oui, c'était juste parce que j'ai vu que donc certains FAI dans FFDN commençaient à proposer de la FTTH. Et je voulais savoir comment ça allait se déployer dans l'ensemble de la fédération. Et en fait, quel était le fonctionnement de ce déploiement, en fait.
Alors pour le moment, c'est totalement implémenté au niveau du PowerPoint. Ah, ok. Ça répond à la question.
Plus ou moins, oui.
Donc non, il y a quelques points sur lesquels on est en train de regarder pour pouvoir récupérer des bouts d'accès en FTTH sur certaines zones dans le cadre soit d'accès direct à des réseaux d'initiatives publiques, soit dans le cadre de revente via des opérateurs qui, eux, ont déjà des accès sur les réseaux en question. C'est tout sauf fait. Ok. Si en février, mars de l'année prochaine, on est capable de fournir quelques accès à quelques abonnés, ce sera pas mal. Mais on a des gros problèmes de cohérence à gérer. Je prends un exemple. On est capable de récupérer de quoi fournir des accès fibres sur la totalité du département de l'Ain, plus quelques villes. Genre Deauville, etc., etc. On n'a pas d'adhérents dans ces zones-là. Mais d'un autre côté, on n'a pas d'adhérents parce qu'on n'y fournit pas de réseau. Donc, là, il y a un truc qui marche pas. Mais Quand on a ouvert la DSL, on avait le même problème. Sauf que quand on a ouvert la DSL, on l'a ouvert France entière. Et donc, voilà, on allait bien trouver au moins une quinzaine ou une vingtaine d'adhérents pour que le truc tourne. Là, ouvrir comme ça, en tâche de léopard, un réseau sur lequel personne nous connaît, personne nous attend, ça a pas de sens. Si le club des fans des cravates de Benjamin Bayard a une annexe à Deauville, on peut essayer de faire un truc, tu vois. Ça peut marcher. Mais on n'a pas pour le moment concordance entre les zones sur lesquelles on a de très bons contacts pour aller fournir de la fibre, mais aucun public qui nous attend, et les zones où on a un public qui trépigne et qui nous attend, mais aucun contact pour faire de la fibre. Il y a pour le moment une disjonction complète. Donc on fournira peut-être de la fibre, je ne sais pas encore où, je ne sais pas encore laquelle des associations de la fédération arrivera en premier là-dessus. Ce que je sais, c'est que la solution sera différente dans chaque région, dans chaque ville, dans chaque village, dans chaque département. Parce que la situation est différente sur le terrain. Il n'y a rien d'unifié dans tout ce merdier, et il n'y a aucune volonté d'unifier quoi que ce soit, nulle part.
Donc finalement, si je comprends bien, cette histoire avec Renater, ça me concerne pas du tout, mais bon, je vois la charte Renater depuis que je suis étudiant déjà à l'époque, et c'était déjà le bazar. Si j'ai bien compris, il y a d'un côté l'idée qui consisterait à dire, on leur dit, merde, et on arrête de filtrer, et pour le cran, hein, je parle pas pour moi, et on voit s'ils réagissent. Et de l'autre côté, ce que tu nous dis, c'est que si Renater bouge trop et menace ou coupe, vous pourriez leur dire oui, mais vous êtes, vous étiez fournisseur et il devrait y avoir une mise en concurrence. Et donc finalement, ça risquerait de leur mettre la grouille dans leur réseau, dans leur système juridiquement et techniquement et économiquement et tout ça. Et donc finalement, c'est peut-être une façon d'avoir un poids sur eux tel qui fait que, en termes de chantage. Dit comme ça, hein, je dis le mot qui fait mal, mais tant pis. Ils oseraient pas bouger et qu'ils laisseraient votre réseau, la partie de réseau non filtré faire, et puis basta, quoi. Si on arrive avec un papier bien écrit, on leur dit voilà, on arrête de filtrer.
Non, juste tu dis rien, ils feront rien parce qu'en fait ils savent qu'ils ont pas le cul propre.
Voilà, c'est ça. Et donc en fait, il y a pas vraiment de risque.
Faut pas le dire.
Parce que c'est un peu, je le dire, faut pas le dire, et on sait pas. C'est un peu comme Drainateur qui dit non, mais il y a pas d'abonnement chez les gens.
C'est la situation actuelle. Faut pas le dire.
D'accord, donc faut le faire en fait.
Non, ça c'est déjà fait. Faut pas le dire. Faut pas le dire que le réseau qui n'existe pas n'applique pas le filtre qui n'existe pas parce qu'il n'est pas applicable. Faut pas le dire. Oui, c'est totalement idiot. Mettre ce truc au propre simplifierait tout. Faut pas le dire. Vous couperez au montage, hein.
Et vis-à-vis du merveilleux projet de création d'une Silicon Valley à la française sur un champ de betteraves dans le sud de Paris, qui cette fois-ci bon va quand même aussi complexifier la donne en matière de réseau de ce type-là, avec cette fois-ci un certain nombre d'écoles qui vont mutualiser un certain nombre de d'équipements. Qu'est-ce que tu conseilles aux personnes qui seront aux commandes de ces associations, qui sont déjà aux commandes à l'heure actuelle et qui seront aux commandes dans les prochaines années, de continuer à faire comme ça, à jouer à ce petit jeu avec Renater, cette situation qui est un peu bancale, ou cette fois-ci à partir sur des bases un petit peu peut-être plus saines. Quelle est ton opinion?
Alors, je connais mal le dossier, donc j'ai une opinion très partielle et très partiale. De ce que j'ai compris, vous allez vous retrouver mélangés. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas des bâtiments avec les étudiants de l'ENS et puis des bâtiments avec les étudiants des autres écoles. Ça va être des résidences universitaires avec des étudiants de tout dans tous les sens mélangés. Je ne vois pas comment vous pourriez conserver autre chose que soit une association pour tout le campus, soit une association par paquet. Alors j'en sais rien, par groupe de 2-3 immeubles, par immeuble, par paquet géographique. la répartition non géographique n'a aucun sens. Je vois pas de sens là-dessus. Une association déclarée opérateur peut demander à être opérateur d'immeuble et donc à être celle qui est en charge de l'infrastructure passive dans l'immeuble, de son entretien, de son exploitation, de son administration. Quelqu'un qui est déclaré opérateur auprès de l'ARCEP peut demander à venir dégrouper en pied d'immeuble. Donc peut demander à venir poser ses switches dans le local prévu à cet effet pour raccorder les pioles d'un peu tout le monde. Ce rôle-là peut complètement être joué par le CRANS ou par Fédérez ou par une nouvelle association qui viendrait remplacer, parce que ce sera plus spécifique à Normal Sup, parce qu'il me semble que dans CRANS, le NS veut dire Normal Sup. Ouais. Mais donc voilà, ouais, CRAPS, c'est bien, le comité réseau sur le plateau de Saclay, c'est impeccable, quoi.
Ouais, parce qu'on est quand même dans une logique à l'heure actuelle où on a tendance à sous-traiter à tout va, et notamment à sous-traiter toutes les basses couches de réseau. Ça se fait de plus en plus dans un certain nombre d'établissements. Et le risque est grand que la volonté soit d'en arriver à ce type de situation aussi dans ce projet-là. Donc est-ce qu'il faut qu'à ce moment-là, ce type de structure essaye de se monter de manière à être un peu plus visible, à pouvoir...
Oui. On a des membres de la fédération qui se sont amusés à aller gratter sur ce que c'était que opérateur d'immeuble, sur ce que c'était que des groupages en points de mutualisation. Moi, ce que j'entendais tout à l'heure, c'est que les immeubles, on parlait de machins, genre paquebots, en milliers de logements étudiants par immeuble. Il faut savoir que sur un réseau FTTH, à partir du moment où il y a une base arrière de plus de 1000 abonnés, il doit y avoir un point de mutualisation ouvert à tous les opérateurs du marché. Donc en fait, la pièce dans laquelle il y aura les baies de brassage et l'ensemble des switches, il suffit que n'importe quel opérateur vienne froncer un peu les sourcils auprès de l'ARCEP et il va obtenir des choses. Il va au moins obtenir de vous pourrir la vie ou de pourrir la vie aux gens qui gèrent le campus. Mais donc vous devriez pouvoir obtenir assez facilement des choses intelligentes. Maintenant, je ne sais pas qui pilote le projet, je ne suis pas du tout sûr que tout ce monde-là soit de bonne volonté, je ne sais pas quelle quantité de pot de vin orange à verser, à qui, pour empêcher SFR de venir. Enfin, voilà, je connais pas les mœurs locales. Si ça se trouve, c'est SFR qui a versé un pot de vin pour que on accuse Free d'avoir mal fait. Enfin, j'en sais rien, moi. Ils font tout le temps comme ça entre eux. Et donc voilà, je sais pas du tout comment ça se passe, mais il y a moyen de. Après, je sais pas si les instances dirigeantes ont envie. Elles ont probablement envie de sous-traiter pour que ça soit pas leur faute. Le fait qu'une association dise on s'en occupe et on va le faire dans les formes juridiquement. Et on va se protéger comme il faut, en étant déclaré comme il faut, en étant membre de tel ou tel regroupement pour structurer le tout, mettre en avant Fédérez, mettre en avant éventuellement, si vous voulez, être correspondant ou membre de la fédération FDN selon ce qui est possible et ce qui a du sens. Moi je suis toujours très surpris, l'ARCEP connaît FDN et ne connaît pas le CRANS. Voilà, vous êtes juste 6 fois plus nombreux. Hein. C'est... Voilà. Mais nous, on fait bien 6 fois plus de bruit que vous. Ouais, facile. Mais donc, voilà. C'est... Il y a complètement moyen. Vous avez une chance folle. Je suis pas enseignant ni étudiant à l'ENS Cachan, donc je vais pas foutre les mains dans votre réseau et je vais pas aller mettre du associatif partout, mais... Le terrain est très favorable. Il y a du terreau intéressant. Par contre, il faut sûrement de la volonté. Et il ne faut pas forcément y aller au conflit. Hein. C'est la bonne solution pour trouver une porte de sortie et de trouver la bonne façon de présenter la bonne information à la bonne personne. Mais oui, typiquement, mais ça c'est l'exemple tout con. Tu vas voir n'importe quel sous-directeur, petit chef de quelque chose à l'ENS en disant « Monsieur, s'il te plaît, est-ce que le CRANS peut se déclarer opérateur auprès de l'ARCEP ?» Tu vas provoquer des remous, on va t'expliquer que non, qu'il faut réfléchir, qu'il faut au moins deux comités de pilotage, un chef de projet, tout ça. Tu vas voir le même en lui disant, dis donc, on m'a fait remarquer qu'on n'était pas conforme à la loi en n'étant pas déclaré. Est-ce que je signe le fichier Word pour se déclarer? Il va te répondre oui. Tu vois, c'est vachement simple. Et pourtant, c'est la même information que tu lui as donnée. Hein. Non, mais c'est bien de prévenir, enfin, de dire après, de dire on l'a fait au fait, on s'est mis au carré. Mais c'est un peu comme si, quand vous changez de bureau, si vous oubliez de le déclarer à la préfecture... C'est contraire à la loi, c'est pas très grave, hein, mais c'est contraire à la loi. Donc voilà, ça fait partie des éléments sur lesquels vous avez un terrain extraordinairement favorable. Moi qui fais dans le FAI associatif depuis plus de 15 ans, voilà, fournir de l'accès FTTH à des étudiants sur un campus, je trouverais ça super marrant. Ça fait envie. C'est le cadre idéal pour faire de l'associatif. Pour les étudiants du campus, c'est le moyen parfait d'apprendre tous les métiers autour du réseau, pour ceux qui ont envie de les apprendre. Parce que c'est pas en cours qu'ils vont apprendre ça. C'est le métier de FAI, il s'apprend pas en cours. Il s'apprend avec les deux mains dans le cambouis. Voilà, il y a tout à faire, il y a tout à apprendre, il y a tout à découvrir. Après, je sais pas si les différentes instances dirigeantes vous laisseront faire. Mais il y a tout à faire dans ce contexte-là, et des choses bien. Et normalement, ça fait partie des choses que quand ils disent qu'ils veulent en faire une Silicon Valley à la française, une des particularités, c'est que de ça, ils sortent des gens compétents. Et des gens compétents, ce sont des gens qui ont fait autre chose que de rester le cul assis sur une chaise dans un amphi. Et donc, faire en sorte que le réseau local soit fait non pas par les ingénieurs Orange de Paris, mais par les gamins étudiants, c'est extrêmement intéressant en termes de formation et en termes de quantité d'énergie positive qui s'accumule, quoi. De gens qui apprennent à faire des choses, qui sortent en sachant faire, ça augmente la probabilité qu'un jour quelqu'un fasse quelque chose d'innovant en matière de réseau sur le plateau de Saclay, plutôt que de juste fournir avec 6 mois de retard ce qui est prévu par et annoncé par toutes les publicités télé. Voilà, normalement c'est ça le but. Et il y aurait une association par bâtiment, que ce serait pas pire, parce que du coup ce sera pas tous pareils, donc il y aura des choses différentes qui émergeront, des choses différentes à tester, des choses différentes à échanger. Quand vous en serez à monter des liaisons sauvages d'un bâtiment à l'autre pour mailler votre réseau vous-même, sans passer par les adultes, les grandes personnes, les pénibles, alors vous aurez progressé en matière de réseau. Quand vous serez arrivé à la conclusion qu'avec un petit faisceau hertzien entre deux chambres, on peut mailler un peu plus le réseau avec 100 ou 200 mecs de flux qui permettent d'échapper à pas mal de choses, vous aurez progressé en matière de réseau. C'est très dommage que ce soit pas déjà le cas. Mais voilà, le but devrait être d'aller vers ça. Si leur but est de faire une Silicon Valley à la française, faire en sorte que les étudiants qui sortent de là soient pas des consommateurs passifs, mais soient des faiseurs de réseau, soient des faiseurs de numérique, ça a du sens. Je suis pas du tout sûr que les instances dirigeantes aient envie de l'entendre. Oui, ils vont faire des faiseurs de digital. Oui, c'est parce que j'en ai beaucoup parlé sur Twitter ces derniers jours, mais digital, c'est avec le doigt. C'est numérique, sinon.
Je te remercie. Ouais, il est tard. Faut que ce soit rapide, alors, parce qu'après, on va devoir s'arrêter.
Pour la fibre optique au sein de la FED, il y a Theta Neutral, tu en fais déjà?
Non, Theta Neutral fait pas du FTTH. Theta Neutral,
il me semble qu'ils font du FTTH, justement.
J'ai pas en tête. Ils ont un bout de fibre pour raccorder Saint-Gaudens, mais je crois pas qu'ils fassent du raccordement fibre chez l'abonné. Je me trompe peut-être. Theta Neutral, c'est une des associations de la fédération qui bosse sur Toulouse. Et qui fait des choses très, 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 très bien. Ils font plein de trucs rigolos. et en particulier le Toulouse Hackerspace Factory qui est, ou Hackerspace Festival, je sais jamais. C'est vachement bien, faut y aller. Il y a trop de monde, mais faut y aller quand même. Non, puis c'est dans le sud, ça vous fera du bien.
Bon, ben, on te remercie.